c'est l'heure du JT.
Il est pratiquement 19h. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour passer ce week-end en votre compagnie.
Putain, nous sommes le
Ils veulent avoir leurs examens en fin d'année. C'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat. Voilà.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation
de la part du gouvernement ?
Fausses offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini,
ce maillot c'est qui connerie, cette fois-ci, c'est sûr, je l'éteins, là, je l'éteins la télé, même je l'éteins à tout jamais. Tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui.
Oh, René, tous les vendredis, c'est pareil. Une télé explosée, hein. La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Bonsoir, on est bien sur le Canu Info.
Et le Canu Info ce soir dans une musique terrifiante commence par des informations locales. Première information locale, apparemment, on a tiré le portrait de Macron à Lyon, une action symbolique.
Et ensuite, on vous apprendra à prendre le métro pour faire le plein de particules fines.
Et puis on parlera de Laurent Wauquiez qui se rêve grand flic et va interdire les manifestations des gilets jaunes.
Et puis n'importe quoi, interdiction en tout genre, on passe au national avec des lycéens d'Ivry qui ont été perquisitionnés, tenez-vous bien, pour un tag. Et quatre d'entre elles et eux sont toujours en garde à vue.
Et ensuite, on vous parlera d'un blocage qui a lieu à la raffinerie par les gilets jaunes.
Pour Sans Transition, vous annoncez l'automatisation de la censure sur Internet.
Et ensuite, on vous parlera de la généralisation du jour de carence pour l'arrêt maladie.
Et ensuite, cette musique sera de circonstance parce qu'on verra comment il y a eu un incident à la centrale nucléaire du Tricastin.
Et après, on parlera de MobiCoop. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle plateforme pour se déplacer.
Et puis, actuellement, notamment en cours à l'Amicale du Futur, une discussion autour de nombreux recours sur le délit de malfaiteur.
Et puis, on vous parlera de la dissolution du bastion social.
Pour ensuite vous raconter la triste histoire de l'accès à un accueil de jour pour migrants ou migrantes qui est tiré au sort.
Et ensuite, on vous parlera d'un week-end contre les frontières qui aura lieu le 23 et 24 février.
Et si vous en avez toujours pas marre, on pourra parler d'une action qui a eu lieu au centre de rétention administrative de Saint-Jacques vers Rennes.
Puis on partira à l'international pour parler des antidouleurs qui tuent en Amérique.
Il est 19h06, vous êtes sur le 102.2 FM, c'est le Canu Info du vendredi.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette nuit.
Du Rouennais de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Ce reportage sur la grève du Nadi. Les agents joués par la maison. Les agents par le maire. Les agents par le maire. Les agents par le maire.
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Et oui. Au local, qu'est-ce qui s'est passé? On a volé le portrait de Macron dans la mairie du 2e arrondissement. Me direz-vous, parce que on voulait l'afficher dans sa chambre? Et non, pas du tout. C'est le collectif Action Non Violente COP21 qui avait déjà lancé une pétition qui visait à attaquer l'État français pour qu'il adapte sa politique à la situation écologique. Cette pétition a rassemblé aujourd'hui plus de 2 millions de signatures sans pour autant faire bouger le gouvernement. Et du coup, face à cette inaction, l'ANV COP21 de Lyon a décidé de investir la mairie du 2e arrondissement et ils et elles ont piqué le portrait de Macron, portrait qui ne sera rendu à Macron que lorsque la politique du président permettra effectivement de réduire de 1,5 degré ou à 2,5 degrés la température globale de la Terre. Voilà tout. Mais du coup, le problème, c'est que le maire du 2e arrondissement, lui, est pas content du tout. Il parle d'un truc quand même grave violent. Il parle que c'est un acte de violence morale à l'égard de notre République qu'il ne faut pas minimiser. C'est vrai que nous, au Canyon Info, on ne trouve pas ça si grave de voler un portrait de Macron, voire même un petit peu rigolo. Mais il faut croire que la police est du même avis que la mairie du 2e arrondissement, parce que un des militants de ce collectif a été convoqué au commissariat du 2e arrondissement aujourd'hui et qu'il a été placé en garde à vue. Les mêmes actions se sont déroulées aussi à Paris, à Ustaritz et à Biarritz. Pourquoi Biarritz? Parce que c'est la ville où va se dérouler le prochain G7. Mais écologie toujours, on peut voir que le métro ne fait pas non plus le plein de particules fines.
Et oui, effectivement, le micro ne fait pas le plein de voix, je crois. Si, je suis bon. Ouais, c'est impeccable. Et donc, on s'est dit, actuellement, qu'est-ce qui se passe? On est en plein pic de pollution à Lyon, et c'est aussi le cas ailleurs. Et donc, la préfecture du Rhône, mercredi, elle a annoncé le déclenchement de la vigilance orange sur le pic de pollution. Et TCL, dans la lignée directe, s'est empressé de communiquer sur le fait que si l'indice de vigilance passait au rouge, il mettra en place l'offre TIC Air. Quel beau jeu de mots pour annoncer un ticket journalier qui ne coûte que, tenez-vous bien, 3 euros pour circuler tout pendant 24 heures sur le réseau TCL. Et en effet, il semble judicieux d'inciter les automobilistes à prendre les transports en commun pour limiter le pic de pollution et notamment l'émission de particules fines produites en grande quantité par les moteurs diesel. Mais pour leur système respiratoire, il serait quand même beaucoup plus pertinent d'inciter les personnes à marcher, à pédaler ou enfin à rejeter chez elles. En effet, lors des pics de pollution, mais aussi le reste du temps, les particules fines sont excessivement présentes dans les rames du métro, à un taux 3 fois plus élevé en moyenne que le taux maximal recommandé par l'OMS. C'est-à-dire qu'à Lyon, on pollue beaucoup plus dans le métro que 3 fois. Donc l'OMS, c'est l'Organisme Mondial de la Santé. Et comme l'expliquent certains articles publiés récemment notamment sur Mediacité, Keolis, donc le gestionnaire des transports en commun lyonnais, essaie tant bien que mal, bizarrement, n'est-ce pas, de cacher le problème. Sauf qu'à Lyon, comme ailleurs, on ne respire pas si bien que ça dans le métro. En effet, si elle est plus faible que dans l'habitacle d'un véhicule individuel, donc l'intérieur d'une voiture individuelle, c'est vraiment l'endroit où on prend le plus de pollution dans la gueule, la concentration en particules fines est bien plus importante dans le métro que dans les rues. Donc vous avez plutôt intérêt à vous balader à l'extérieur si vous voulez respirer tranquillement. Et ça, c'est en parlant des usagers. Parce que si les usagers prennent cher, donc 3 fois plus que ce que recommande l'OMS, on a beaucoup de facilité à imaginer que c'est vraiment pas terrible pour les gens qui travaillent en permanence dans les couloirs du métro. Et on pense à elles et eux. Et puis petit rappel rigolo un peu pour conclure sur cette nouvelle pas terrible sur la qualité de l'air dans le métro. On aimerait bien quand même que plutôt que proposer des tickets à 3 euros la journée, les TCL deviennent gratuits lors des pics de pollution. On se rappelle que la seule fois qu'un pic de pollution entraînait la gratuité à Lyon des transports en commun, c'était en mars 2014, où Gérard Collomb avait imposé cette décision de gratuité des transports en commun. Vous savez quand? Le vendredi de la veille des élections, où il a été brillamment réélu.
Et un autre qui n'a pas peur de faire n'importe quoi pour pouvoir être réélu, et bien entendu, c'est Laurent Wauquiez qui a profité du coup de l'espèce de buzz autour de la voiture de police qui a donc a eu les vitres brisées par la manifestation des Gilets jaunes samedi dernier. Et bien Laurent Wauquiez, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les CRS qui se sont fait caillasser leur voiture pour leur apporter tout son soutien. Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il dénonce des images de barbarie insoutenables. Alors du coup, là quand même, cette voiture voiture, faut se dire que c'est juste quelques vitres qui ont été brisées et des gens qui mettent un petit coup de pied gentiment et même pas si fort que ça dans le pare-choc de la voiture. Rien du tout, en fait, par rapport aux images de barbarie insoutenable des violences policières qu'on peut voir tous les samedis pour le mouvement des Gilets jaunes, mais dans les quartiers et tous les jours partout ailleurs. Et du coup, on peut vraiment pas du tout parler d'images de barbarie insoutenable quand on parle juste de vitrines brisées sur une petite voiture par rapport à des attaques de flashball, des grenades des personnes qui perdent leurs mains, des attaques au tonfa, des blessures pas possibles, des blessures de guerre qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans la façon de maintenir l'ordre de la police. Et du coup, Laurent Wauquiez, lui, demande que les manifestations non autorisées soient bloquées et interrompues. Il veut absolument interdire, en fait, les manifestations dès samedi. Et alors, cette requête, bah, du coup, assez facilement, a été balayée par le préfet du Rhône, qui, pour une fois, ne dit pas que des bêtises, parce qu'il dit que cela ne ferait finalement qu'attiser la tension.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et pour commencer cette rubrique nationale, on va à Ivry, puisque cette semaine, mercredi, 6 lycéens ont été perquisitionnés chez eux et 4 d'entre eux sont restés en garde à vue jusqu'à hier pendant 36 heures. On vous relaye donc le communiqué du Front de Mer, le premier syndicat de parents des quartiers populaires. En décembre, en plein mouvement lycéen contre le manque de moyens, contre Parcoursup et la réforme du bac, 4 adolescents avaient été mis 36 heures en garde à vue parce qu'on les avait soupçonnés d'avoir écrit « Macron démission » sur un panneau d'affichage. Eux ont toujours nié en être les auteurs. 36 heures de garde à vue pour un tag « Macron démission ». La proviseure du lycée avait alors porté plainte contre ces adolescents alors que le tag avait été fait à l'extérieur du lycée. En réaction, des lycéens avaient fait un tag dans le lycée pour que le rectorat retire sa plainte en solidarité avec leurs camarades gardés à vue. Le 20 février, à 6h du matin, 42 policiers ont débarqué chez les familles de 6 adolescents soupçonnés d'être les auteurs du tag dans le lycée. 4 de ces 6 adolescents sont toujours en garde à vue à Créteil et à Vitry, dont 3 sont mineurs, je crois. Nous sommes choqués par un tel déferlement de violence et de terreur à l'encontre d'adolescents sur la base d'un soupçon de tag. Nous dénonçons ces pratiques scandaleuses orchestrées par la police, la justice et l'institution scolaire, visant par la répression policière et judiciaire à casser toute velléité de contestation de l'ordre établi et de solidarité entre lycéens et lycéennes. Nous exigeons la libération immédiate des lycéens gardés à vue. Nous soutenons ces lycéens et leurs familles et appelons les parents, militants, enseignants, journalistes à être présents au rassemblement organisé à Ivry, Créteil et Vitry ces prochaines heures et prochains jours pour exiger que l'État cesse de réprimer et de terroriser ainsi nos enfants. Donc, mercredi soir, un rassemblement a été organisé devant le tribunal de Créteil où étaient détenus 4 des 6 lycéens, 2 avaient été relâchés, pour y être peut-être mis en examen. Un autre a eu lieu hier soir sur l'esplanade de la mairie d'Ivry pour manifester leur mécontentement quant aux conditions d'arrestation, un tout petit peu exagérées, on en convient. C'est à mon camarade de parler des blocages des raffineries, je crois, non ?
Non, je crois qu'on va plutôt pas parler de l'automatisation de la censure sur Internet.
On change comme ça le
On a peur de rien, on a peur de rien.
Et oui, et ben parfait. Et ben je vais vous parler de l'automatisation de la censure. Et pourquoi ? Parce que nous sommes, figurez-vous, un tournant de la longue histoire de la censure. Ce tournant, c'est celui de la censure privée et automatisée. La loi de 1881 sur la liberté de la presse, aujourd'hui interprétée à la lumière de la Convention européenne des droits de l'homme, est certes pleine de lacunes, mais elle n'en demeure pas moins une boussole fondamentale pour la liberté d'expression, prévoyant par exemple des règles procédurales spéciales pour juger a posteriori des abus de cette liberté et consacrant la compétence exclusive du juge judiciaire dans le cadre de procédures publiques. Mais d'année en année, les protections associées à la liberté d'expression reculent un peu partout, dans la rue, dans la presse, mais aussi et surtout sur Internet. Si le phénomène est ancien, le contexte actuel de crise antiterroriste et la dérive autoritaire qu'oppose le pouvoir aux mouvements sociaux y contribuent grandement. Pour ne prendre qu'un sujet qui nous intéressera ici, rappelons par exemple qu'en 2014, le législateur a estimé que l'apologie du terrorisme sur Internet n'aurait à ce point rien à voir avec la liberté d'expression, qu'elle pourrait faire l'objet d'une censure secrète du ministère de l'Intérieur. Cette évolution aura d'ailleurs conduit, fin 2016, à la censure de communiqués qui revendiquaient notamment l'acte de destruction de véhicules de la police en réponse à l'inculpation de personnes arrêtées en lien avec les manifestations contre la loi travail. Donc ça, c'était en 2016. Et pour rappel, les deux médias ciblés, c'était Indymedia Nantes et Indymedia Grenoble. En contournant les garanties procédurales attachées à la loi 1881, cette évolution a conduit aux comparutions immédiates et à des condamnations totalement disproportionnées de dizaines de provocateurs au lendemain des attentats, notamment du 2 janvier 2015. Donc cette fuite en avant est en train d'atteindre un point de bascule. Depuis 2015, les gouvernements français, britanniques, allemands et états-uniens n'ont eu de cesse de mettre les multinationales de l'économie numérique sous pression pour les inviter à faire la police sur leur plateforme. De visites ministérielles dans la Silicon Valley en sommet État-plateforme sur le terrorisme, Google, Facebook et consorts ont accepté ces collaborations visant à massifier la censure de la propagande terroriste dans un cadre extrajudiciaire. Après de nombreuses expérimentations menées ces dernières années, notamment par Interpol ou encore le ministère de l'Intérieur français, ces nouveaux agencements publics-privés sont en passe d'être couronnés par l'adoption en marche forcée d'un règlement européen dédié à la lutte contre la propagande terroriste présenté en septembre dernier par la commission Juncker. La France est, avec l'Allemagne, directement à l'origine de ce texte. Le 12 avril dernier, donc de 2018, le ministre de l'Intérieur, notre très cher Gérard Collomb, et son homologue allemand écrivaient à la Commission européenne pour l'intimer d'agir au plus vite pour présenter et faire adopter ce texte. Celle-ci a donc obtempéré, présentant son projet le 12 septembre, donc 2018, le jour où le Parlement européen adoptait le fameux article 13 de la directive copyright, dont les obligations en matière de censure automatique nourrissaient alors la controverse. C'était le premier pas sur cette censure automatique. Dans sa version initiale, ce projet de règlement antiterroriste tient en quelques articles, et notamment trois. Dont un qui prévoit une obligation pour tout fournisseur de services internet, donc hébergeur web, fournisseur de messagerie, etc., quelle que soit sa taille et son fonctionnement, donc il ne s'agit pas seulement de grosses plateformes, de retirer dans un délai de une heure les contenus signalés par les autorités sous peine d'importantes sanctions financières. Un autre article permet également à ces mêmes autorités d'imposer une telle censure non sur la base du droit national applicable, mais sur la base des conditions d'utilisation des plateformes. Les polices européennes pourront donc, comme le fait déjà le ministère de l'Intérieur français ou Europol, signaler des contenus haineux ou terroristes pour exiger leur censure sur la base du droit privé. Et dernier article qui impose aux hébergeurs d'adopter des mesures proactives pour lutter contre la propagande terroriste. Comme dans la directive copyright, il s'agit en réalité de déployer des filtres informatiques scannant l'ensemble des contenus mis en ligne par les utilisateurs d'un service pour bloquer ceux correspondant à certains critères arrêtés par ces firmes. Donc une forme de censure préalable mise en œuvre par des acteurs privés via des outils automatiques qui pourront être paramétrés en partenariat avec les États. Donc ça laisse présager que du bon. Lors du forum sur la gouvernance d'Internet qui se tenait dans les locaux de l'UNESCO à Paris, Macron est revenu sur ce règlement, un texte qu'il a dit soutenir pleinement, espérant son adoption rapide avant les élections européennes, soit à peu près 6 mois, délai exceptionnellement court pour un texte sécuritaire qui institue une censure extrajudiciaire pour l'ensemble des acteurs du net opérant au sein de l'Union européenne. Or, dans son discours, Macron confirme le bien fondé des craintes qui ont été soulevées par le règlement, donc assurant que la régulation des contenus illicites ou indésirables est la prochaine frontière. Il s'empresse de distinguer deux blocs. Le premier concerne la lutte contre les contenus objectivement et gravement illégaux. Le terrorisme, la pédopornographie, pornographie. Pour ces contenus, l'intelligence artificielle est mûre, assure le président. C'est bien le sens du règlement européen que d'en généraliser l'usage. Le second rassemble les contenus dont le caractère illicite est soumis à une interprétation souvent d'ailleurs différente d'un pays à l'autre. Les contenus haineux, la diffamation, le harcèlement, etc. Pour ces derniers, Macron estime que l'intelligence artificielle n'est pas encore assez fine pour distinguer l'ironie, la parodie ou au contraire reconnaître un sous-entendu abject sous un discours policé. Mais pas encore mûr, ça veut dire qu'ils espèrent que ça le sera bientôt. Et cette perspective a récemment été confirmée par le secrétaire d'État au numérique en annonçant le plan de lutte contre les contenus haineux sur Internet. Donc ça, c'était le 14 février dernier. Celui-ci évoquait sans réserve la perspective de soumettre les discours de haine à la censure automatique. Donc durant 3 jours de ce fameux forum de la gouvernance d'Internet, l'intelligence artificielle, donc surnommée IA, était sur toutes les bouches. C'est bien elle, en réalité, la nouvelle frontière censée transformer toutes les bureaucraties. C'est bien elle qui, selon l'expression entendue à maintes reprises durant cet événement, permettra à la surveillance et à la censure de passer l'échelle, de passer à l'échelle mondiale. Les progrès réalisés ces dernières années en machine learning, ça c'est le terme magique en anglais, et en traitement automatique des textes et des images fait en effet figure de Saint Graal pour les États. Fin 2017, un conseiller de Theresa May expliquait que si les États avaient besoin des multinationales américaines pour faire le sale boulot, c'est qu'après tout, ces entreprises ont les meilleurs cerveaux du monde. Ces firmes réunies depuis juin 2017 au sein du consortium baptisé Global Internet Forum to Counter Terrorism, excusez-moi pour l'accent anglais, mettent en avant des résultats impressionnants. Quoique guère vérifiable en matière d'automatisation de la détection des contenus terroristes. YouTube parle de, tenez-vous bien, 98% de contenus de ce type repérés automatiquement. Tandis que Facebook explique que 99% des contenus liés à l'État islamique ou à Al-Qaïda sont retirés avant que quiconque ne les ait signalés. Pour l'heure, ces outils de censure automatique n'opèrent souvent qu'un premier filtrage et l'immense majorité des contenus censurés sont en réalité modérés par des prestataires établis en Inde, aux Philippines ou au Maroc pour juger de la conformité des textes ou d'images, de textes ou d'images aux conditions d'utilisation des plateformes. Donc ces petites mains de la censure qui travaillent dans des conditions déplorables se voient imposer des objectifs délirants de l'ordre de 2000 images par heure, soit une appréciation portée sur une image en moins de 2 secondes. En 2017, Facebook annonçait porter ses équipes de modération de 3000 à 7500 personnes. Google envisageait dans le même temps de porter le nombre de modérateurs YouTube à plus de 10 000. Donc ces chiffres rappellent que malgré ces rapides progrès, la censure automatisée telle qu'elle est vendue n'est encore que balbutiante. Mais compte tenu des milliards investis par ces énormes boîtes dans la recherche en IA et des pressions exercées par les États, sa généralisation est désormais à portée de main. On nous parle souvent de lutter contre la propagande terroriste et les discours de haine, mais il est désormais de plus en plus clair que cette lutte reposera sur des dispositifs de censure automatique qui resteront de véritables boîtes noires, par définition du coup secrètes, gérées par des partenariats publics-privés opaques. Ces derniers consentiront peut-être à mettre en scène une certaine transparence, un peu d'autorégulation et des aménagements présentés comme autant de garanties à l'image de Facebook qui nous promet aujourd'hui de mettre sur pied une cour suprême pour recevoir des plaintes d'utilisateurs victimes de sa politique de modération, mais ils ne présenteront jamais les garanties offertes par des juridictions traditionnelles. Et pour cause, ces dispositifs sont conçus pour s'en affranchir. La censure automatique des communications a cet avantage pour le pouvoir qu'elle est presque invisible et donc pratiquement incontestable. Il apparaît aussi de plus en plus clairement que ce qui est aussi visé, c'est l'invisibilisation de tout discours associé de près ou de loin à des formes de violence politique qui risqueraient d'être perçues comme légitimes. S'il était adopté, le règlement antiterroriste serait donc une pierre de plus à la mise en place de ces nouveaux dispositifs dédiés à l'invisibilisation des expressions politiques contestataires. Rien qu'en s'en tenant à la catégorie de l'apologie du terrorisme, les outils de censure développés par les multinationales numériques en lien avec les autorités trouveraient à s'appliquer à de nombreuses activités militantes. Le sens de terme terrorisme est en effet tellement vague ou lorsqu'une définition existe, elle est tellement large qu'il peut servir à justifier la censure de toute expression favorable à des actions politiques offensives ou violentes, y compris Donc, eh ben, bien évidemment, la destruction de biens matériels, dont on parlait tout à l'heure, par exemple, pour la voiture de police, le sabotage ou le blocage d'infrastructures. Donc voilà. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ben du coup là, l'idée c'est quand même d'essayer de tout faire pour rompre l'alliance des appareils policiers et des grands marchands d'infrastructures numériques. Et il faut éviter que ce ne se consolide les fondements techniques et juridiques d'une société de contrôle qui nous enferme doucement mais sûrement dans une cage algorithmique. Voilà.
Merci pour ce long exposé. Nous allons parler d'un rapport d'experts qui a été remis mercredi par rapport à la sécurité sociale. Alors, c'est encore une petite merveille. C'est une mesure qui pénaliserait une grande partie des salariés du privé, mais pour la faire accepter, le rapport a mis quelques petites paillettes aux yeux pour qu'on ne soit pas que dégoûté. Donc ces trois experts qui ont été missionnés en septembre par Matignon pour trouver les moyens d'enrayer la hausse des arrêts maladie. Donc ils ne se sont pas dit qu'ils allaient essayer de trouver un moyen de lutter contre la souffrance au travail, ce genre de choses. Ils se sont plutôt dit que la meilleure idée ce serait d'instaurer un jour de carence obligatoire pour tous, c'est-à-dire non payé en cas d'arrêt maladie. C'est déjà le cas pour le moment dans la fonction publique, mais dans le privé, les salariés ont théoriquement 3 jours de carence, mais ceux-ci sont souvent pris en charge par l'employeur dans le cadre d'un accord de branche ou d'entreprise. Donc là, par équité avec la fonction publique, les trois experts recommandent d'appliquer la même règle au privé. Donc le jour de carence sera d'ordre public, c'est-à-dire que les entreprises auront interdiction de le compenser. Conscient de la difficulté de faire accepter une telle mesure, puisque bon, tout le monde y perd grosso modo, les experts proposent donc des contreparties qui sont que tous les salariés du privé qui seront en arrêt pourront ensuite pour le moment, il y a certaines entreprises qui maintiennent le salaire des salariés lorsqu'ils sont en arrêt. Et ils se font ensuite rembourser par la sécurité sociale. Ça, c'est le principe de subrogation de salaire. Cependant, ce n'est pas toutes les entreprises qui font ça. Et dans ce cas, les salariés malades doivent attendre parfois plus d'un mois pour obtenir le versement des indemnités journalières. Donc là, en contrepartie du jour de carence obligatoire, les experts recommandent donc de généraliser le principe de subrogation, donc du maintien de salaire. Voilà, grosso modo. Et l'autre idée dans ce rapport, c'est que la sécurité sociale qui verse 50% du salaire, il y aurait aussi l'entreprise qui verserait un complément de salaire obligatoire. Mais pour le moment, donc, c'est pas tous les salariés qui ont le droit à ce complément. Et par exemple, les personnes qui sont en CDD ou ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté, les saisonniers et les salariés à domicile, ont pas cette plus-value. Donc là, par contre, les experts recommandent une meilleure prise en charge des salariés non couverts par le complément de salaire versé par l'employeur. Donc ça, c'est chouette. Voilà, il y a encore beaucoup d'autres recommandations, comme renforcer la coopération entre médecins traitants, médecins du travail et médecins conseils de la Sécu. Donc il y aura une ouverture de la négociation avec les partenaires sociaux. Pour le moment, il ne s'agit que d'un rapport qui va être soumis avec un autre rapport sur la santé au travail aux partenaires sociaux dans les prochains mois. Et l'objectif étant d'ouvrir une négociation d'ici l'été. Pour le moment, le gouvernement reste plus que jamais déterminé à faire baisser les arrêts maladie, dont le coût pour la collectivité augmente chaque année de 4%. Donc l'enjeu est assez important parce qu'il y a des dépenses d'arrêt maladie qui ont augmenté de 19% en 2010 et 2017. Donc ça fait 1 milliard d'euros sur la période. Et j'aime bien cette phrase quand même, c'est Édouard Philippe qui dit « En 3 ans, le nombre de journées indemnisées est passé de 11 à 12 par an et par salarié du privé. C'est comme si notre pays avait instauré un jour de congé supplémentaire. » Alors, je pense à des proches qui ont eu la grippe intestinale il n'y a pas longtemps et j'imagine que c'était un peu comme un jour de congé supplémentaire aux Bahamas.
Voilà, donc ils voient ça comme ça, donc les super congés quand on est malade ou en burn-out. Et en burn-out. Voilà, donc c'est la ministre de la Santé qui a dit... Quand nous contrôlons les arrêts de travail, 15% sont inappropriés et sont des abus. Il y a quelqu'un qui paye pour tout le monde, c'est la Sécu. Et par contre, moi, ce que j'ai lu ailleurs, c'est aussi qu'il y avait plein de gens qui avaient des arrêts prescrits et qui ne les prenaient pas parce qu'ils avaient justement envie de retourner au travail ou malgré la difficulté qu'ils avaient, ils avaient quand même envie de faire bonne figure.
Ouais, et on rappelle qu'en France, 96% de la fraude à l'assurance maladie n'est pas le fait des gens qui sont malades, mais des médecins et des organismes de santé tels que les cliniques. Et ça, ce sont les chiffres de la Commission des comptes, hein, qui n'est pas exactement un organe gauchiste.
Et bien alors maintenant, je vous parle de la centrale du nucléaire de Tricastin,
allez,
par exemple.
Oui.
Eh bien, je vais vous parler de la centrale nucléaire de Tricastin, parce que, une fois n'est pas coutume, il y a encore eu un incident, et pour le coup, qui est plutôt très grave, qui s'est passé le 3 février. Donc, c'était pas non plus hier, mais c'était ce mois-ci. Donc, ça, c'est. Là, je vais vous lire, en fait, le communiqué de la CRAD, qui est l'association donc, dans Rhône-Alpes, qui est un laboratoire qui fait des mesures de radioactivité et qui, justement, essaye de faire un travail un peu contrôlé. Contre tous ces, toute cette industrie du nucléaire. Et donc, il nous indique qu'il y a eu du coup un incident donc, dans la centrale nucléaire de Tricastin. Donc ça, c'est en premier lieu, c'est EDF qui l'a communiqué donc le 4 février et qui a fait état d'un incident intervenu le 3 février lors des opérations de maintenance sur les réacteurs numéro 2 de la centrale donc, du Tricastin. Ce texte indique que lors du retrait des éléments internes supérieurs, un assemblage combustible est resté accroché au système de maintien. Donc cet incident a entraîné un arrêt de ces opérations et la fermeture du bâtiment réacteur. Donc comme souvent, en pareille circonstance, le communiqué d'EDF ne rend pas compte des enjeux réels. L'incident pourrait en effet avoir de graves conséquences et son issue doit être suivie avec attention. L'assemblage du combustible irradié est en effet resté suspendu de manière imprévue au-dessus de 156 assemblages encore présents dans le cœur du réacteur nucléaire. Sa chute pourrait entraîner les ruptures de gaines des crayons du combustible nucléaire et un relâchement de substances hautement radioactives dans l'eau du circuit primaire, puis par des gazages dans l'air du bâtiment réacteur et dans l'environnement. Rappelons que si l'air du bâtiment réacteur est en théorie filtré avant rejet à l'atmosphère, les dispositifs de filtration ne retiennent pratiquement pas certaines substances radioactives sous forme gazeuse comme, alors je vais vous donner des noms, vous ne les retiendrez peut-être pas, mais je vous les donne quand même, le xénon 133, le xénon 135, le krypton 88, et le krypton 85, etc. etc. Et j'en passe, je ne vais pas tous vous les dire. En cas de chute, on peut s'interroger également sur les risques de criticité. Cet incident présente également des risques importants pour toutes les personnes qui travaillent sur le site et qu'on oublie souvent. Un incident, alors il faut aussi savoir que il s'agit d'un incident qui est très rare au niveau mondial. C'est pourtant la troisième fois en 11 ans qu'il se produit sur la tranche 2 du site de Tricastin. Donc en 2008, deux assemblages de combustible étaient restés coincés et il avait fallu plus de 7 semaines pour trouver une solution. Officiellement, l'incident de 2008 était dû au fait qu'une bille était tombée du pont de manutention lors du rechargement précédent. Cela avait décalé la position de certains assemblages et lors de la remise en place de la structure supérieure du cœur, EDF avait dû forcer pour embosser les structures. Donc c'est assez risible quand même. Et il était donc prévisible qu'au déchargement suivant, les assemblages forcés restaient coincés. Et il y a eu aussi le même incident en 2009 où idem, un assemblage s'était retrouvé coincé. Donc nous on attend avec impatience de connaître les causes de 2019 qui pose quand même de nombreuses questions sur la capacité d'EDF à exploiter en toute sûreté son installation et à tenir compte du fameux retour d'expérience. Et pour signaler, les incidents comme ça, il y en a un peu régulièrement, plusieurs fois par mois. On ne vous les raconte pas tous pour ne pas trop vous déprimer non plus. Et puis on vous rappelle qu'il y a une centrale qui est vraiment juste à côté de Lyon et qui est occultée de tous les risques industriels communiqués par la métropole de Lyon. Voilà.
Alors, maintenant, on va parler de la coopérative de covoiturage Mobicoop. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui a été lancée en novembre 2018. C'est une société coopérative d'intérêt collectif qui compte faire de l'ombre à la plateforme capitaliste de Blablacar en lançant son service en ligne gratuit des mobilités partagées. Donc, face aux géants de l'économie collaborative, il y a d'autres initiatives sociales et solidaires qui émergent. Hein, donc, on connaît les Uber, les Drivey, les locations de voitures en particulier, Blablacar et autres, ces énormes poids lourds de l'économie dite collaborative qui se font de plus en plus de bénéfices en plus sur les trajets. Et Mobicoop a envie d'offrir une alternative sociale et solidaire par rapport à ces modèles-là. Donc l'idée, c'était de rassembler 20 000 sociétaires qui apportent 2 millions d'euros de fonds propres pour survitaminer la plateforme qui existait déjà, qui s'appelle covoiturage-libre.fr. Le principe, c'est une reprise en main citoyenne des questions de transport, pour permettre des mobilités avec le partage de la valeur économique, bien sûr, et un fonctionnement démocratique. Les parties prenantes ne manquent pas. Donc, il y a l'usager qui fait appel au service de Mobicoop pour partager un mode de déplacement, le propriétaire de voiture qui cherche à mutualiser les frais par du covoiturage ou louer son véhicule qui ne roule pas, le travailleur indépendant de service VTC qui ne veut pas être inféodé à la plateforme d'un géant du web, et une collectivité locale cherchant à organiser les mobilités. Puisque Mobicoop s'intéresse aussi à ça, donc c'est pour le service gratuit de covoiturage en particulier. Donc pour préciser, il n'y a aucune donnée sur les personnes qui sont enregistrées, et Mobicoop propose à chacun des utilisateurs de verser une sorte de don d'un euro, un peu sur le modèle de Wikipédia, pour aider à développer l'appli et les services solidaires qui sont en lien. L'autre activité est la prestation de services auprès des collectivités qui veulent monter leur propre plateforme de covoiturage. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ces initiatives sont en passe de se fédérer au niveau européen. Ce contre-modèle ne s'attaque pas qu'au covoiturage, puisque depuis un an, il y a l'association Coop Cycle qui propose au Coursier Uni en coopérative sa plateforme en ligne de livraison. Donc il y a une quinzaine de ces collectifs qui s'en sont saisis en France, mais aussi en Espagne, en Allemagne et en Belgique. Et l'idée est que la valeur doit revenir à ceux qui la produisent, donc les travailleurs et travailleuses structurés en organisation démocratique, la coopérative. Donc voilà, ils mettent à disposition un outil technologique sous licence de réciprocité.
Ouais, je voudrais pas péter l'ambiance, mais en fait, Blablacar, ils sont vraiment lancés là-dessus sur la gratuité avant d'être dans une position de monopole qui leur a permis de rajouter des tarifs. Il faut quand même se méfier un peu de ça. La deuxième chose dont il faut se méfier, c'est le lien avec les collectivités. Actuellement, l'arrivée d'un gros acteur que vous allez bientôt voir sur votre téléphone, etc., sur la question du covoiturage, notamment du covoiturage local sur les petites distances, c'est Waze et ses 12 millions d'utilisateurs qui va utiliser en fait toutes les données qu'ils ont collectées, toutes les données GPS qu'ils ont collectées depuis une dizaine d'années sur les millions d'utilisateurs qu'ils utilisent comme GPS pour venir vendre du service de covoiturage aux collectivités. Je dis pas que c'est pas bien, mais je pense qu'il faut se méfier un peu.
Méfions-nous, mais peut-être que s'ils ont affiché, on verra ce que ça donnera à ces initiatives. En tout cas, pour le moment, ça a l'air assez sympa. Et pour le moment, elles commencent à se fédérer au niveau européen. Donc depuis août, il y a une coopérative des coursiers qui est en gestation afin de mutualiser les technologies, les financements et l'ingénierie juridique et de gouvernance. Et fin octobre à Bruxelles, il y a eu la première rencontre des livreurs, livreuses et riders qui a débouché sur une exigence de structuration syndicale de ces collectifs de travailleurs et travailleuses. Donc à voir.
Et les Lyonnais et les Lyonnaises qui font de la livraison dans ce cadre-là, ils s'appellent Traboulotte, les gens de Coop Cycle à Lyon.
Eh bien, merci pour toutes ces infos. Et puis, dans la suite de la rubrique nationale, on va vous parler de nombreux recours aux délits d'association de malfaiteurs qui ont eu lieu en France ces derniers temps. Donc en fait, à Limoges, à Bure et à Toulouse, il y a plusieurs personnes qui ont été inculpées pour ce délit, association de malfaiteurs. Et en ce moment même, à l'Amicale du Futur, dans le 7e, a lieu une discussion visant à lever le voile sur les bricolages policiers et juridiques mis en œuvre et aussi qui vise à comprendre les pièges et les enjeux de ces bricolages policiers. S'il est un peu tard pour participer à la discussion, à part si vous vivez juste à côté de la rue Sébastien-Griffe, c'est peut-être encore temps de filer là-bas, vous pourrez en tout cas toujours aller manger à la cantine de soutien qui aura lieu à l'Amicale aussi, juste après la rencontre. La discussion, elle tourne autour de trois affaires qui ont en commun un recours abusif au délit d'association de malfaiteurs. À Limoges, quelqu'un est en détention provisoire depuis bientôt un an. Ce qui lui est reproché, c'est une trace de son ADN retrouvée sur le portail d'une gendarmerie à l'intérieur de laquelle des véhicules de contrôle judiciaire à l'intérieur de laquelle des véhicules ont été incendiés en septembre 2017. À Bure, depuis juin 2018, des personnes sont sous contrôle judiciaire et ont une interdiction de se voir. Et là, du coup, qu'est-ce qui leur est reproché ? C'est d'avoir pris part à la lutte pour le futur site d'enfouissement de déchets radioactifs. À Toulouse, une manifestation. Une personne est en détention provisoire depuis bientôt deux semaines et elle est soupçonnée d'avoir pris part aux manifestations des Gilets jaunes. Donc voilà, tout que des recours abusifs à cette mention association de malfaiteurs. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? D'après la loi, en fait, c'est quand il y a tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs crimes et d'un ou plusieurs délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Donc le délit d'association de malfaiteurs, il trouve sa jeunesse dans le souvenir de la Révolution française. Il fait sa première apparition dans le Code pénal en 1810, érigé par Napoléon Bonaparte, et vise alors les groupes d'individus vivant en dehors de la loi et déstabilisant l'ordre social réinstauré par le Premier Empire. Dès lors, le délit d'association de malfaiteurs n'aura de cesse d'être utilisé dans de multiples circonstances, réprimant tour à tour des formes de banditisme, aussi bien que des mouvements politiques. Il sera étoffé au fil des années par un arsenal législatif, lui associant des circonstances aggravantes jusqu'à l'entreprise terroriste. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la surveillance des activités sur le Internet. Ces dernières années, le pouvoir judiciaire a particulièrement recours à ce délit, utilisé dans l'affaire Tarnac contre 9 inculpés, puis abandonné pour 5 d'entre eux, utilisé pendant le mouvement de la loi travail à Rennes à deux reprises. Ce chef d'inculpation est récurrent dans des contextes de lutte politique. Quitte d'ailleurs à ce qu'il soit abandonné au fil de l'instruction, car pas assez caractérisé au final. Car ce qui compte dans ce genre de situation, c'est bien les pleins pouvoirs accordés aux enquêteurs par les juges d'instruction. Ce qui compte, c'est la possibilité de placer des individus en détention provisoire pour une durée indéterminée, sans date de procès à venir, comme c'est le cas pour l'affaire de Limoges ou de Toulouse. Ce qui compte, c'est la possibilité de pouvoir placer des individus sous contrôle judiciaire, les empêcher de se voir, les interdire de territoire, comme c'est le cas à Bure. Et cela dans le but avoué de paralyser, d'assécher des mouvements de lutte.
Sans papier.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestin.
Europe forteresse.
Répression.
Canada.
OQTF.
No border.
Février 23, appel national contre les frontières à Montégrève. Une nouvelle personne est morte à la frontière briançonnaise. Il s'agit de la 4e personne morte à la frontière en moins d'un an dans les Hautes-Alpes, la 26e personne en 3 ans à la frontière franco-italienne. La répression contre les personnes qui traversent les frontières et celles qui leur sont solidaires ne cesse de s'accroître, comme le montraient la semaine passée les expulsions et les arrestations de militants et militantes à Turin.
Les frontières sont le signe d'un monde réservé à l'usage d'une élite riche, mondialisée, mobile. Mais ils ne sont construits que grâce à l'exploitation de tous ceux qui en sont exclus et n'en profitent jamais. Ce monde prospère grâce aux richesses et aux ressources pillées aux anciennes colonies par des siècles d'expropriation. Il fonctionne grâce au travail quotidien de salariés dont on massacre toujours plus les conditions de travail.
Ici, à Montgenèvre, les stations de ski ont été bâties en grande partie par des travailleurs émigrés italiens, pour le loisir de consommateurs plus aisés. Aujourd'hui, ceux qu'on nomme migrants empruntent les mêmes chemins pour venir travailler en France, où leur force de travail sera exploitée ailleurs, mais toujours pour alimenter les rouages du capitalisme.
Les frontières sont des lieux où les polices, les armées et des états capitalistes mènent une guerre aux plus pauvres tout en faisant fructifier l'industrie de l'armement. Mais ces lieux ne font que rendre visible la violence globale que le capitalisme exerce contre la main-d'œuvre qui le fait fonctionner. Exploités jusqu'à mourir sur un chantier, dans la mer ou dans une plantation, nous sommes tous et toutes des corps indispensables au gré des logiques de marché.
Ce système repose sur la mise en concurrence des travailleurs entre eux. Les frontières permettent aux États capitalistes de créer de la richesse avec le transport des marchandises et de maintenir au plus bas les conditions de travail sur le territoire, en menaçant constamment les travailleurs locaux de la concurrence d'une main-d'œuvre sans papier, donc plus corvéable et plus soumise.
Or, c'est en s'appuyant sur notre force de travail que le capitalisme mène sa guerre contre nous tous et toutes. L'étranger qui est présenté comme un ennemi n'est pas autre chose qu'un frère ou une sœur qui partage la même condition d'exploitation.
Refusons ces frontières qui nous divisent et rejetons plutôt les liens qui nous unissent à nos oppresseurs. Faisons front commun contre les frontières, contre ceux qui profitent et accumulent les richesses de ce monde aux dépens de nos vies. Samedi 23 février, une manifestation sera organisée au Pays Basque, à la frontière entre la France et l'Espagne, pour dénoncer le système d'exploitation impérialiste dont la migration n'est que la partie la plus visible.
À la frontière italienne, rassemblons-nous pour faire écho à leur lutte et à toutes celles qui sont menées actuellement en France, en Italie, au Soudan, en Irak, pour manifester une révolte commune. On vous donne rendez-vous le 23 février à 14h à l'école du ski français de Montgenèvre.
Et une fois que les personnes sont en France, ce qu'on peut voir, c'est que c'est encore vraiment loin d'être gagné. On va vous parler notamment d'un cas à Paris où des migrants et des migrantes jouent à la loterie leur place dans un centre d'accueil. Donc du coup, c'est dans un centre d'accueil qui s'appelle France Horizon et qui se désole de devoir faire face à beaucoup plus de demandes qu'elle ne peut en proposer. Les travailleurs et les travailleuses sociaux organisent donc un tirage au sort tous les matins à 9h. L'association France Horizon, un accueil de jour dans le 4e arrondissement de Paris, offre 50 places disponibles, mais une vingtaine seulement se libère chaque jour. Tous les matins, entre 150 et 400 migrants se pressent aux portes et viennent tenter leur chance au tirage au sort. Ainsi, pour passer la journée au chaud, prendre une douche et surtout enclencher une procédure de demande d'asile, il faut gagner cette sorte de loterie. Les travailleurs sociaux mettent des jetons de différentes couleurs dans un sac, mais une seule est gagnante. Tout est prévu pour éviter les possibles tricheries, car les couleurs changent tous les jours. Pour l'association France Horizon, qui gère cet accueil de jour, cette loterie permet de limiter les violences et les phénomènes de campement devant le centre. Si ce système choque par son caractère arbitraire et violent, qui met plus que jamais les gens dans des situations d'incertitude et de précarité, il n'est peut-être pas en pratique beaucoup plus violent que dans les autres, et il ne sert à rien de viser cette association en particulier. Ce qui est violent, c'est avant toute chose le manque de places d'hébergement en France, qui induit ces attitudes maltraitantes, faute de réelles solutions à proposer aux personnes.
And now, in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Alors, à l'international, on va en Amérique. Pourquoi? Parce qu'il y a des Américains qui s'écroulent en pleine rue.
C'est pas drôle.
Je me suis trompée.
Non. Tu t'es trompée d'émotion, on dirait. Non.
Et je me suis trompée de toi, du coup, je me suis complètement trompée. Bon, bref. Reprenons sérieusement. En fait, en plus, c'est vraiment pas du tout drôle, puisque je veux vous parler des opioïdes qui causent près de 200 décès par jour. En fait, c'est aux États-Unis. Il y a la petite Emma qui est venue au monde en état de dépendance et sa maman prenait des antalgiques dérivés de l'opium, des médicaments antidouleurs qui créent une addiction. Aux États-Unis, il y a un bébé qui naît toutes les 20 minutes intoxiqué aux opioïdes avec des retards de développement, des problèmes moteurs et on ne connaît pas encore les conséquences à long terme de ce qui est presque une épidémie. Donc il y a ces médicaments antidouleurs qui sont prescrits de très très facilement, qui sont vendus légalement et qui sont prescrits pour des douleurs chroniques comme l'arthrose ou le mal de dos. Ces molécules provoquent à travers les États-Unis des overdoses en série. Donc en plein jour, en pleine rue, ça peut arriver vraiment de voir apparemment des personnes qui tombent dans la rue ou qui sont mal d'un coup, quoi. Et voilà, c'est pas du tout le profil habituel des personnes toxicomanes, mais c'est vraiment quelque chose qui est banalisé. Et donc, c'est la mort sur ordonnance qui frappe de partout. Et donc, aux États-Unis, il y a 72 000 morts d'overdose en 2017. Donc, c'est une grave crise sanitaire qui a connu l'Amérique. Et voilà, du coup, c'est pour dire que c'est même plus que les armes à feu et les accidents de la route combinés.
Et dans la suite de cette rubrique internationale, on va vous parler du coup de la France, mais du rapport de la France avec l'étranger, et notamment par le fait que la France n'ait pas décidé à cesser la vente d'armes qui tuent massivement au Yémen. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le 19 février, l'ancien député de La République En Marche, Sébastien Nadeau, exclu du groupe en décembre, a déployé en pleine séance à l'Assemblée nationale une banderole « La France tue au Yémen ». Il a vite été rappelé à l'ordre. Le député demande depuis des mois la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les ventes d'armes françaises aux pays qui sont en guerre au Yémen, en vain. La coalition des belligérants au Yémen est emmenée par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis en font partie. Ce sont deux gros clients des exportations d'armes françaises. Les forces armées émiriennes ne font que détourner les armes vers des milices au Yémen et tout ça n'est pas contrôlé. Et cela est connu pour connaître des crimes de guerre. La guerre qui dure depuis 2015 a fait des dizaines de milliers de victimes. Les bombardements de civils sont courants. 22 millions de personnes, les trois quarts de la population du pays, ont besoin d'aide humanitaire pour survivre à cause de blocus imposés par la coalition en 2017. 3 millions d'enfants en bas âge souffrent de malnutrition. Rien qu'en février, 53 enfants yéménites ont été tués et 92 mutilés dans le conflit. Malgré cette situation, l'État français refuse de suspendre ses livraisons d'armes à l'Arabie Saoudite. En 2017, la France a livré plus de 1,3 milliard d'euros d'armement à Riyad et a engendré plus de 700 millions d'euros de nouvelles commandes de la part des Émirats Arabes Unis. La France confirme que les implications au Yémen a fortement impressionné les militaires de la région. Donc ça, c'est le PDG du groupe Nexter qui fabrique ses blindés, qui l'a déclaré avec fierté. Et début février, le groupe français Naval Group a même annoncé avoir formé une co-entreprise avec l'Arabie Saoudite pour fabriquer du matériel naval militaire directement dans le royaume. Plusieurs pays européens ont déjà décidé de cesser leurs exportations d'armes vers l'Arabie Saoudite à cause du conflit au Yémen, le Parlement néerlandais dès 2016 et la Norvège début 2018. En octobre 2018, suite à l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le gouvernement allemand a lui aussi suspendu temporairement les ventes d'armes au royaume saoudien. L'Allemagne est pourtant l'un de ses principaux fournisseurs d'armement. À propos de cette décision, tout ce que Macron a réussi à dire, c'est que c'était de la pure démagogie. Le gouvernement français ne souhaite très clairement aucun débat public sur le sujet. La question des exportations militaires vers des pays en guerre a ouvert un débat en Allemagne. Et le gouvernement français craint manifestement que celui-ci n'empêche la France de vendre tranquillement ses armes, alors que les deux pays développent des projets milico-industriels communs. Un futur avion de combat et un char d'assaut franco-allemand. Il y a quelques jours, l'hebdomadaire allemand Der Spiegel révélait qu'en janvier, les gouvernements allemands et français ont conclu un accord de défense portant justement sur les exportations d'armes vers des pays extérieurs à l'Union européenne. L'accord prévoit que les parties ne s'empêchent pas mutuellement d'exporter vers des pays tiers, selon le Spiegel. Le texte affirme aussi que l'un des deux pays ne pourrait s'opposer à des ventes d'armes que si son intérêt ou sa sécurité nationale est mise en danger. Les Verts allemands ont vite réagi à ces révélations et demandé la création d'un comité européen pour l'autorisation des exportations d'armement qui baserait ses décisions sur le respect des droits humains et du droit international pour les pays importateurs. Lors d'une audition au Sénat le 17 octobre 2018, le ministre de la Défense française, Florence Parly, affirmait avec mon homologue allemand, nous nous sommes accordés sur le fait que le char de combat et le système de combat aérien du futur devraient être exportables. Mais alors, est-ce que c'est légal ? Eh bien non, en fait, car en tant que membre de l'Union européenne, il est interdit de transférer des armes utilisées pour commettre des crimes de guerre. En persistant à fournir des armes aux Émirats Arabes Unis, malgré les nombreux éléments prouvant que celles-ci sont utilisées dans des crimes de guerre et d'autres graves exactions au Yémen, la France et l'Allemagne font fi de ces obligations. Certains pays européens, comme le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Norvège, ont récemment annoncé la suspension de leur transfert d'armes vers les Émirats Arabes Unis. Et ça, bon, c'est pas trop ce qu'on dit Macron, c'est peut-être aussi encore de la pure démagogie, simplement.
Radio Canut.
Radio Canu, Canu Info du vendredi.
Bonsoir Mathieu, eh bien nous sommes le Canu Info du vendredi de 19h57 et aujourd'hui ACAB apparemment c'est pas vraiment le printemps contrairement au temps puisque ACAB ce soir veut dire à mort les carences, on attrape des bactéries. Voilà, et il n'y aura pas que des bactéries dans les temps futurs, puisque dans les temps futurs, il y aura des trucs sacrément cool.
Vous avez devant vous l'exemple même de la bonne petite ménagère moyenne dans l'exercice d'une de ses principales fonctions quotidiennes.
10 ans et demi.
Elle qui consiste à préparer un bon petit déjeuner pour son...
Faire mais pas fini.
C'est quoi ?
Pour son...
Faire mais pas fini.
Fonction que prépare vous l'exemple...
Le son, là. Apparemment, il y a un petit bug sur le son qu'on essaie de vous passer.
Il n'y a pas un deuxième jingle sur le...
Si, il y en a un deuxième.
On essaye le deuxième, non ?
En fait,
il me semble qu'il y a une deuxième
en
piste.
En fait, c'est le premier, donc ça il va y avoir un deuxième jingle qui part normalement sur 10 ans et demi. Sinon, demain, il y a Valérie Réjoubert qui est à Terre des Livres pour parler de son bouquin qui sort chez Libertalia qui s'appelle Une culture du viol à la française. On ne sait pas bien l'heure, mais c'est sur rebellion.info.
Une de
Bon, on a un petit problème de technique, mais tout ça, c'était un pré-jingle pour vous dire que le 8 mars, il va y avoir une folle nuit de l'enfer à Radio Canu et ce sera Lilith Martin et les autres et on n'est pas des cadeaux qui vous feront une nuit d'enfer de 17h à minuit.
Et puis le 9, vous pourrez aller au Toy Toy pour le festival Muffin Tough. Et il y aura plein de trucs cool. Il y a du théâtre, des concerts et le tout en non-mixité, sans mixis, il me semble. Vous pouvez retrouver les infos facilement sur Internet. En tout cas, il y a un programme tout à fait alléchant.
Et il y aura aussi, toujours dans la même thématique, le 8 mars, une marche non mixte qui va avoir lieu, mais vous en saurez plus prochainement, puisque les informations seront sur Rébellion.
On vous aime la semaine prochaine.
C'est donc l'heure de Noise Pollution, je crois.
Ouais.
Mais moi, j'ai envie d'écouter un petit peu de musique avant Noise Pollution. Non. Non.
Have you seen the lady's job? Legs of steel, leather on her arm.